Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Benoît Feit au micro. Avec plus d'un milliard 200 millions d'habitants, l'Inde est aujourd'hui la plus grande démocratie du monde, un pays constitutionnellement laïque, bien que la société indienne soit profondément religieuse, majoritairement hindoue, mais on retrouve aussi une importante communauté musulmane, des chrétiens, des sikhs, des bouddhistes, pour ne citer qu'eux. Mais comment fonctionne la laïcité à l'indienne? Y a-t-il réellement une place pour les athées dans ce pays? Et qu'en est-il dans le fond chez les deux autres géants asiatiques que sont la Chine et le Japon? Ce sont les questions que nous allons aborder ce soir en présence de nos deux invités, Babu Gojineni, qui est directeur de l'Union internationale humaniste et laïque, l'IE, et qui est également président du comité indien contre la sorcellerie. Nous avons également le plaisir de recevoir Patrice Dartevel, secrétaire de l'Association belge des athées, qui vient d'ailleurs d'organiser un colloque consacré à l'athéisme dans le monde, au cours duquel il fut notamment question de l'athéisme en Asie. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Babu Gojineni, j'ai peut-être une première question pour vous. Vous étiez présent à ce colloque sur l'athéisme dont je viens de parler et vous y avez présenté un exposé intitulé « Quel avenir pour les mouvements athées en Inde ?» Alors je vous renvoie la question, justement, ces mouvements athées en Inde ont-ils réellement un avenir ?
Pour commencer, il faut dire que le passé du mouvement athée en Inde, c'est glorieux. On parle des athées déjà même avant le temps du Bouddha, même avant les Grecs athées, même avant Épicure et Démocritus. Donc, le passé est super. Mais quel avenir? J'ai quelques doutes. Parce qu'il y avait beaucoup de développements sociaux, politiques aussi. Et là, on voit qu'il y a la remontée de la droite politique et sociale qui menace vraiment tout ce qui est laïque dans le pays. On a une très belle constitution avec la laïcité là-dedans, mais en pratique, ça se voit pas.
Alors justement, effectivement, on disait, il y a plusieurs articles de la constitution indienne qui sont hérités notamment de Nehru, du mouvement d'indépendance, où la laïcité, utilisons le mot correct, c'est « secular » en anglais qui est mentionné, donc ce n'est déjà pas exactement la notion de la laïcité à la belge ou à la française, mais malgré tout, il y a un fondement où on sépare religion et État, où en fin de compte, quelle est cette notion de laïcité indienne?
C'est un peu mixte. C'est aussi confus parce qu'il y avait beaucoup d'hommes politiques qui ont changé la définition de ce qu'on voulait dire par « secular ». Mais ça se trouve dans la préambule de la Constitution et il y a assez de provisions dans la Constitution où on dit « tout ce qui est financé par l'État ne peut pas être associé à une religion particulière ». Là, c'est très clair. Mais en ce qui concerne les hommes politiques, les officiers du gouvernement, les bureaucrates et tout, ils ne respectent pas ces provisions de la Constitution. Ce qui veut dire, dans des écoles publiques, dans des bureaux du gouvernement, on voit des images des déesses, des dieux. On voit des fois aussi les images et les photos des iconographiques chrétiens. Donc ça, c'est respecté, pas universellement, disons.
Et dans la vie quotidienne, pour les athées, pour se projeter un petit peu dans une situation concrète, est-ce que le fait de vivre dans un pays qui est constitutionnellement laïque donne à ces athées un libre champ d'expression, de manifestation de leur liberté individuelle? J'entends par là le non-respect, par exemple, de certains prescrits religieux. Ou est-ce que pour un athée, il faut au contraire être quand même vigilant dans la façon dont on vit ouvertement son athéisme?
Ça dépend, c'est un grand pays. Et si on parle du sud, peut-être que l'athée est plus protégé que dans le nord. Dans le nord, déjà dans l'état de Tamil Nadu, les athées avaient une parti politique, le parti politique Dravida Karagam. Et là, ils ont pu aussi élire un gouvernement. Donc l'état de Tamil Nadu a été gouverné par une parti politique qui était athée, décidément. Et ça avait une identité rationaliste aussi. Là, il n'y a pas beaucoup de danger. Mais si on va au Cachemire, si on va, par exemple, dans l'état de Gujarat, où il y avait le génocide de 2000 musulmans, déjà, les athées, comme les autres, sont menacés. Donc, là où il y a des problèmes de minorité, les athées y sont inclus, avec les musulmans, les chrétiens et les autres. Donc, il n'y a pas de réponse générale pour un grand pays comme l'Inde, mais au niveau constitution, on est protégé. Il y a la liberté de conscience. On peut changer de religion, on peut exprimer notre avis. Mais il y a ce qu'on dirait un parallèle aux lois blasphèmes en Inde, c'est quand quelqu'un peut porter plainte contre nous pour avoir hurting religious sentiment, comme on dit.
D'avoir heurté leur sentiment religieux.
Là, ils peuvent aller à la police. La police est obligée d'arrêter cette personne. Mais jamais il y a eu de conviction par le judiciaire. Mais ça commence par ça. C'est un harcèlement qui est difficile.
Donc légalement, constitutionnellement, il existe suffisamment de flou qui permet une interprétation dans un sens ou dans un autre. C'est ça que vous nous expliquez.
C'est vrai, oui.
Plus récemment, on parle de maintenant d'il y a plus d'une dizaine d'années, mais encore plus récemment, ces derniers mois, ces dernières années, on voit qu'il y a une pression du mouvement nationaliste hindou, le parti BJP notamment. Est-ce que ce serait le BJP, est-ce que le BJP serait aujourd'hui la plus grande menace sur la laïcité à l'indienne?
Sans doute. Le problème, c'est que le BJP est un parti politique. Mais le soutien pour le BJP vient de la société indienne, qui est religieuse, qui croit beaucoup à des croyances des hindous. Et c'est là où est le problème. Parce que le BJP veut transformer le pays en un pays, ils disent toujours laïque, mais ce n'est pas un pays laïque, c'est un pays hindou qu'ils veulent. Donc, ils appellent ça sécularisme aussi. Donc, il y a confusion de termes. Le BJP a une philosophie politique et sociale qui s'appelle New Humanism.
Le nouvel humanisme.
Le nouvel humanisme qui n'est pas la nôtre.
Donc, c'est quoi le humanisme, l'humanisme à la sauce BJP, c'est quoi?
C'est ce qu'ils appellent cultural nationalism, le nationalisme culturel, qui est en parallèle avec les nazis et les fascistes. Ils veulent établir un grand État puissant, tout puissant, où tous les citoyens sont égaux. Ce qui veut dire, en principe, c'est bien de dire ça, mais ce qui veut dire que les minorités n'auront plus de droits dont ils jouissent maintenant.
Et quand on parle de minorité, replaçons-nous, pour les Belges, c'est important de le comprendre, dans un contexte indien, quand on parle de minorité, on parle systématiquement de millions de personnes. C'est le cas notamment des musulmans, mais aussi des chrétiens, des bouddhistes, jaïns, on en passe et d'autres. Qu'est-ce qui est réellement menacé pour ces minorités, en ce compris les athées? C'est quoi? C'est une forme de liberté d'expression ou ça va au-delà de ça?
Bien sûr, la liberté d'expression, mais aussi la liberté de pratiquer sa propre religion, sans être menacé pour ça. Par exemple, aujourd'hui, on a un premier ministre et le parti politique qui insiste que tout le monde qui est en Inde, qui est né en Inde, qui est citoyen indien, est en effet hindou. Donc, ils veulent imposer une identité à des gens qui ne veulent pas. Un musulman n'est pas un hindou, c'est clair. Mais le premier ministre veut nous dire que même si on est né musulman, on est hindou. Donc, c'est...
L'assimilation forcée.
Exact, exact.
On reviendra sur le cas de l'Inde dans quelques instants, si vous le voulez bien. Mais je voudrais à présent passer la parole à Patrice Dartevel. À côté de l'Inde, on l'a cité, il y a évidemment ces deux autres géants, et notamment le voisin, la Chine, un pays où l'on recense proportionnellement le plus d'athées au monde. Un sondage Gallup datant de 2012 parle de près de 47% de la population chinoise se déclarant sans religion. On interpréterait ça donc comme athée. Est-ce que, malgré tout, c'est à ce point un paradis des athées, la Chine? Patrice Dartevel.
Il faut bien dire que Chine et Japon représentent de manière relativement proche, mais avec d'importantes différences tout de même, un univers très différent de celui de l'Inde. Les deux sont relativement proches, effectivement. L'impact du bouddhisme, par exemple, de part et d'autre, c'est vrai. Une différence importante, c'est le poids du régime communiste et de la période communiste en Chine. Enfin, officiellement, ils sont toujours en période communiste, mais il y a l'époque Mao et puis post-mortem de Mao. Hein. Alors, effectivement, quand on fait des sondages mondiaux, on met en évidence, il faut le reconnaître, un phénomène de type colonial. Nous plaquons des concepts, ou nous essayons de plaquer des concepts qui conviennent bien au monde chrétien, aux religions du livre, il faut le dire en grosso modo, ça ne fait pas énormément de différence. Un athée pour un musulman, c'est quelque chose de tout à fait clair, normalement, et comparable à la situation des milieux chrétiens, ça c'est tout à fait clair, mais n'empêche que c'est un problème. Il faut bien voir par exemple que le mot religion était créée tardivement au Japon, que les Chinois n'avaient pas le mot et qu'ils l'ont emprunté, encore après bien entendu, ils l'ont emprunté aux Japonais. Et donc il faut bien voir qu'il y a là déjà une difficulté, qu'on est dans un cadre complètement différent. Alors quand on fait un sondage, en termes occidentaux, ce qui est le cas du Gallup, on se retrouve devant des choses très curieuses. Effectivement, les deux pays les plus athées, c'est la Chine 47%, le Japon 31%. Évidemment, ça pose de solides problèmes. Alors, le problème est biaisé pour la Chine parce que une critique possible, ça consiste à dire oui, mais ce n'est pas un pays où règne réellement la liberté d'expression,
c'est
la liberté.
C'est un bel euphémisme en l'occurrence.
Et donc, quelle est la crédibilité de principe d'un pareil sondage?
Oui, en fin de compte, les gens répondent peut-être à la question ce qu'on attend d'eux qui
répondent. C'est très possible, sans qu'on en soit sûr non plus. Alors, le problème ne paraît pas jouer au Japon, mais la question de l'habitude, de la pression sociale peut aussi jouer. Tant en Chine qu'au Japon, par rapport au sondage et à la vie pratique, il faut tenir compte encore d'un autre élément, c'est dans ces pays-là une règle de ne pas se faire remarquer par une divergence, que ce soit dans ce domaine ou que ce soit dans un autre. Et donc, chez nous, afficher une opposition, au fond, c'est souvent ça peut paraître souvent un plus que par rapport à quelqu'un qui serait « moi, je suis dans la majorité, je dis comme la plupart ». C'est l'inverse dans ce type d'Asie. On ne peut pas être le clou qui dépasse. Ils ont tous les deux le même proverbe. Alors, qu'est-ce que donne l'analyse de ça? Elle est compliquée pour la Chine, plus claire au Japon. En fait,
commençons par le Japon alors.
Le Japon a, au fond, tous les Japonais, y compris athées, ont chez eux un culte des ancêtres. Ils ont un hôtel pratiquement tous. Ça a même été un problème au moment du tsunami. Beaucoup de Japonais sont morts parce qu'au lieu de prendre leurs jambes à leur cou, ils sont vite rentrés chez eux, ou ils ont voulu le faire, pour aller rechercher les traces de leurs ancêtres. Et évidemment, ce type de religion, il est général. Est-ce que c'est une religion? Ça se discute. D'autre part, il y a notamment du côté bouddhiste une affirmation qui est comparable à la déclaration chez nous « je suis effectivement, par exemple, chrétien chez nous ou musulman ».
Donc, le bouddhisme est plus facilement assimilable, le bouddhisme japonais est plus facilement assimilable à une religion.
Ça s'affiche plus comme une philosophie. Les Japonais sont très tentés, évidemment, par l'idée de se calquer quand c'est possible sur les façons de faire et de penser des Occidentaux. Et donc, en réalité, ils répondent 16% « oui, je suis religieux ». Ça désigne grosso modo les bouddhistes et quelques chrétiens. Alors, par contre, ils répondent à 23%, je ne sais pas, je ne comprends pas, et à 31%, non, je ne suis pas religieux.
Alors, je ne sais pas, je ne comprends pas la question.
Je ne comprends pas la question, je ne peux pas répondre. C'est un chiffre complètement aberrant. Partout où on monte, on répond, j'ai pas de réponse, à 2, 1, 5% maximum. Et donc, eux, ils répondent ça. Bon, ça veut dire que la question est inadéquate. Et donc, au fond, je ne suis pas une personne religieuse, je ne réponds pas, je ne comprends pas, ça fait un peu plus de la moitié des Japonais, eh bien, ça désigne effectivement l'esprit majoritaire des Japonais qui sont décalés par rapport à ça. Par contre, il n'y a pas de raison de contester le 31% d'athées.
Qui, eux, sont bel et bien des athées, 31, au sens où nous l'entendons ici.
31% d'athées, 16% de bouddhistes, eh bien oui, ou de chrétiens, oui, ok, ça c'est comme chez nous. Mais la moitié de la population est dans l'univers japonais traditionnel et ne peut pas réellement répondre à la question. C'est un peu un autre univers, effectivement, que celui que nous connaissons.
Alors, avant de repasser la parole à Babu Gojineni, je voudrais vous entendre également sur la Chine. Vous nous disiez que c'est un contexte un petit peu plus compliqué à analyser. Je voudrais d'abord vous demander de réagir à cette information que je ne sors pas d'un chapeau, bien entendu. Mais il semblerait qu'on vive en Chine ces dernières années un regain du religieux, même de manifestations ostensibles d'appartenance religieuse. Est-ce que vous confirmez cette réalité?
Un fait est incontestable. Et on voit là les méfaits des politiques autoritaires, ou leurs limites. On peut s'en désoler, que ce soit dans la Turquie d'Atatürk ou dans la Chine de Mao.
Excellent
on
parallèle.
Se retrouve devant des problèmes. La période de la révolution culturelle a conduit à la destruction ordonnée par Mao, au niveau de la Chine évidemment, ça fait des milliers, des dizaines de milliers de temples. Il n'est pas douteux que nous sommes actuellement en période de reconstruction de ces temples. C'est indubitable. Qu'est-ce que ça veut dire en matière religieuse ? C'est plus complexe parce que dans ces pays-là règnent des règles que nous avons oubliées, à savoir ce qu'on appelle l'orthopraxie. L'important, c'est le culte. La foi réelle, ça se discute encore. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des pratiques cultuelles ou aussi le culte des ancêtres joue son rôle, bien entendu. Et là, c'est beaucoup plus difficile à interpréter, d'autant comme on le disait tout à l'heure en commençant, il n'y a pas une vraie liberté d'expression et de conscience là, et donc la mesure n'est pas facile. Ceci étant dit, 47% d'athées, ça paraît aussi indiquer un problème, c'est peu vraisemblable, mais quant à déterminer des chiffres, le cas de la Chine, malheureusement, reste en partie opaque.
Mmh. Babu Gojineni, 47% de non-croyants datés dans un pays, ce sont des chiffres qui vous font rêver quand il s'agit de l'Inde ou votre objectif n'est pas nécessairement de convaincre vos compatriotes qu'ils doivent être athées?
Bon, être athée, c'est notre conclusion. Mais être humaniste, c'est notre identité. Pour moi, c'est l'identité qui est importante. Et quand on parle de 40% d'un milliard de personnes, ils ne seront pas tous d'accord. Et les sondages sont des sondages, il y a toujours des problèmes avec les statistiques. Donc moi, je ne suis pas tellement impressionné par le nombre de personnes. Pour moi, ce qui est important, c'est que chacun, religieux, non-religieux, athée, agnostique, ait de la place, de l'espace pour sa liberté de conscience. Et ça, il faut assurer dans chaque pays. Et c'est une liberté qui est menacée partout dans le monde, y compris la Chine, en Inde, même en Europe. Donc, c'est là où il faut combattre le privilège des religions, où il faut créer cet espace sûr et sain pour les gens, pour croire ce qu'ils veulent. Et pour moi, combien d'athées, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Pour autant qu'ils vivent dans un pays laïque, c'est ce que vous nous dites.
Voilà.
Alors justement, pour parvenir en tout cas à vos fins ou à expliquer votre position, vous avez depuis très très récemment, depuis début octobre je pense, accès à un programme de télévision sur une télévision régionale. Alors de nouveau, il faut bien s'entendre, quand on dit télévision régionale à l'échelle de l'Inde, on parle à nouveau de millions, de centaines de millions de personnes. Ce programme de télévision s'appelle The Big Question, la grande question. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit ?
Tout d'abord, je dois vous expliquer que le programme, c'est sur la science et la société. C'est un regard humaniste sur les sciences et la société. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est une défense de la laïcité. Nous habitons dans un pays, dans une société où le gouvernement soutient des prières aux dieux quand il ne pleut pas, où les hommes politiques et les opinion makers sont mêlés dans des rituels et des rites pour faire pleuvoir, pour amener la pluie et tout. Donc il y a une perte de bon sens et ils ont abandonné la science. Donc moi, j'aimerais bien mettre sur la table la question, la grande question. Qu'est-ce que nous, comme hommes, comme femmes, qu'est-ce que l'humanité a achevé jusqu'à maintenant? Et the big question, pourquoi the big question? Parce que c'est des questions qui ont propulsé l'humanité vers la civilisation. La religion reste toujours avec les réponses, de vieilles réponses. Tandis que les questions restent toujours les mêmes, les réponses changent. C'est ça l'approche de la science. Donc nous, on va examiner les mythes et des pensées et des croyances des religions, des traditions, et voir si ça a toujours de la place dans la société moderne.
Alors, je l'ai dit, l'émission n'existe pas depuis très longtemps. Elle a commencé début octobre de cette année, 2014. Est-ce que vous avez déjà des retours du public ? Est-ce que vous avez le sentiment que votre émission répond à une attente du public ? Ou est-ce que vous devez un peu les convaincre ?
Oui, on est très content parce qu'il y a déjà 3 émissions qui sont passées et maintenant on a reçu les résultats. Le premier épisode de notre émission, ça a reçu le numéro 2 dans le viewer ratings. Dans
le taux d'audience.
Oui, et ça, c'est des gens qui parlent telugu, c'est 100 millions de personnes. Des gens qui ont accès à la télévision, c'est 70 millions de personnes. Donc, on veut dire que ça a beaucoup, beaucoup touché des gens et ils ont répondu. il y a un grand appétit pour des programmes comme ça. Parce que tout le monde est intéressé par ces questions. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Comment vivre d'une manière très morale? Et on cherche des réponses pour ça dans la religion. La religion ne peut pas répondre à ces questions. Donc il faut revenir à la science, à des valeurs modernes, à la philosophie pour y répondre. Et ce qu'on essaie de faire avec The Big Question, c'est ça, répondre à ces questions. On a tout commencé, tout d'abord on a commencé par les questions et puis on a examiné comment les idées de création sont des mythes. Parce qu'en essayant de répondre à ces questions, on tient beaucoup à des réponses. C'est ce qu'a fait la religion. Nous, on veut dire aux gens, au public, aux spectateurs, aux auditeurs, que la méthode de la science, c'est de poser des questions à nouveau à chaque jour. C'est la seule façon de découvrir la vérité. La vérité est liée avec les faits. Et tandis que la religion imagine, crée des mythes, tandis que la science vérifie. Une fois qu'on vérifie, on sait ce qu'est la réalité. La religion cherche à trouver la réalité, mais n'y arrivera jamais. Parce que la méthode qu'utilise la religion n'est pas correcte. La science utilise la méthode qui est autocorrigeante. Donc, toujours, on va changer des réponses. On arrivera et on répondra aux mêmes besoins qui ont propulsé les gens vers la religion en donnant les résultats des informations sur la vérité. Et les trois premières émissions qu'on a faites, c'est ce qu'on a essayé et ça a réussi, j'imagine.
Bien, pourvu que ça dure, et en termes d'émissions, celle-ci touche progressivement à sa fin. Je voudrais peut-être me retourner vers vous pour conclure, Patrice Dartevelle. Quand on entend Babou Godjineni qui nous dit, a priori, obtenir 45-47% d'athées en Inde n'est pas un objectif en soi, tant que chacun trouve sa place et la place pour sa liberté de conscience. Vous, au sein de votre association, vous pourriez traduire vos objectifs selon les mêmes termes? Vous rejoignez Babou sur cette question-là?
Ah, sûrement. C'est le sens qu'il a dit. Rien n'est possible, rien n'est valable. Ça, c'est entendu. Ceci étant dit, ça ne résout pas tout, parce que, comme il l'a dit, il faut que chacun puisse vivre selon ses convictions. Et nous, c'est celle d'athée, effectivement. Et les choses étant, dans beaucoup de pays, ce qu'elles sont, comme l'a dit un de nos orateurs, le christianisme, c'est devenue la palissade depuis que Marcel Gauchet, notamment, et Weber, ont développé le thème. C'est peut-être la religion de la sortie de la religion. Nous savons à peu près comment ça fonctionne. La question est que nous ne savons pas tout à fait comment on va sortir d'autres religions. Je pense, par exemple, à l'orthodoxie chez nous, au christianisme orthodoxe. Comment on va sortir de l'hindouisme ou d'autres? Ça reste à faire, effectivement. Ça viendra. Ah oui, nous en sommes convaincus. Mais comment? C'est peut-être pas à nous de le dire, mais plutôt aux gens du lieu. Mais c'est un gros défi pour tout le monde.
Un défi que nous relèverons, qui sait, peut-être ultérieurement dans cette émission. En tout cas, pour l'heure, je vous remercie à tous les deux, Patrice Dartevelle, Babou Godjineni, d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé vos réflexions avec nous. Au revoir à tous les deux.
Merci.
Je reçois à présent Yves Kengen, le rédacteur en chef d'Espace de Liberté, le mensuel du Centre d'Action Laïque. Yves Kengen, bonsoir.
Bonsoir Benoît.
Le numéro de décembre d'Espace de Liberté sort tout bientôt. Qu'y a-t-il au menu de ce numéro?
Eh bien Benoît, connaissez-vous le point commun entre Shahar Shambesuri, Loy Kratong, Diwali, Inti Raimi et Jules?
J'imagine qu'on fait beaucoup de points Scrabble, mais il doit y avoir un autre point commun.
Eh bien oui, ce sont des fêtes solsticiales qui se célèbrent concomitamment à Noël. Ce qui veut dire que, finalement, Noël, qui est l'objet de tant de débats quand on ose mettre un sapin sur la grande place et que certains disent que c'est un abominable symbole chrétien, eh bien, c'est pas vrai. D'abord, Noël est avant tout une fête païenne, née du calendrier romain, par hasard, parce qu'il se fait que la fête du soleil invaincu, quand Jules César a réformé le calendrier, c'était le solstice d'hiver, c'est tombé un 25 décembre.
Par hasard.
Par hasard. Alors peut-être que le petit Jésus est né le même jour, ça je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on a voulu en savoir davantage et on s'est aperçu que dans un grand nombre de civilisations de ce monde dans lequel nous vivons, eh bien, il y a des fêtes solsticiales ou des fêtes du retour de la lumière qui sont concomitantes à Noël et qui présentent un certain nombre de points communs. Et on s'est penché sur toutes ces fêtes. Avec chaque fois des spécialistes pour nous en parler.
Très bien, donc ça c'est le dossier d'Espace de Liberté du
c'est
mois de décembre. À côté de ce dossier, est-ce qu'il y a l'un ou l'autre article sur lequel vous voudriez attirer notre attention ?
Certainement, alors nous allons revenir sur le fameux cours de citoyenneté. Vous savez qu'on parle beaucoup des cours philosophiques et de ce par quoi on aimerait bien qu'ils soient remplacés. Et donc on a demandé à quelqu'un qui enseigne la philosophie dans une école de professeurs de nous faire une réflexion sur comment elle verrait ce cours de citoyenneté, qu'est-ce qu'elle entend par citoyenneté et comment est-ce qu'on pourrait enseigner ça à des élèves. Voilà, ça c'est. Nous avons également un article très intéressant sur l'Association internationale des exorcistes. Vous connaissez ça?
Ah non,
ça,
alors là, c'est effectivement original.
Alors c'est Philippe Cohen-Grillet qui est notre correspondant en France, qui est un journaliste du Canard Enchaîné, qui nous annonce que le Vatican a reconnu officiellement fin juin par décret les statuts de l'Association internationale des exorcistes et d'ores et déjà dans chaque diocèse de France, un prêtre est officiellement dédié à ce rituel.
Ma foi, j'allais dire,
oui,
c'est
non,
assez surprenant.
L'idée est bonne et l'association regroupe des prêtres répartis dans déjà 30 pays, dont certainement la Belgique, bien entendu.
Très bien. Alors pour en savoir plus, il suffit évidemment de se procurer l'Espace de Liberté, le magazine du Centre d'Action Laïque. C'est donc le numéro du mois de décembre. Yves Kengen, merci beaucoup d'être venu nous en parler dans Libre Ensemble, avec plaisir. Voilà, et avant de rendre l'antenne, il est l'heure pour nous maintenant de faire un rapide tour de l'actualité laïque en Belgique et dans le monde. Les enfants doivent grandir dans une famille composée d'un père et d'une mère. C'est ce qu'a affirmé en début de semaine Jorge Bergoglio, celui que les catholiques appellent le pape François, à l'occasion de l'ouverture d'un colloque organisé au Vatican sur le thème de la complémentarité entre l'homme et la femme. Ce colloque interreligieux a rassemblé pendant 3 jours des dirigeants catholiques, juifs, musulmans et d'autres confessions, dans le but d'aborder, je cite, la beauté de l'union naturelle entre l'homme et la femme dans le mariage. Un colloque qui suivait de près le synode sur la famille qui s'est tenu le mois dernier et qui a donné lieu à des échanges assez vifs au sujet de l'homosexualité. Un synode dont les retombées doctrinales sont d'ailleurs toujours assez floues aujourd'hui, affaire à suivre, comme on dit. En Belgique, le nouveau ministre de la fonction publique, Steven Van de Put de la NVA, a annoncé en début de semaine qu'il allait interdire le port de signes religieux, politiques et philosophiques pour les fonctionnaires fédéraux en contact avec le public. Cette interdiction devrait s'appliquer à tous les fonctionnaires fédéraux au sens strict. Elle ne concernerait donc pas les policiers, les pompiers ou encore les employés des entreprises publiques, par exemple. Selon Patrick Charlier, le directeur du Centre pour l'égalité des chances, il y a aujourd'hui une nécessité de légiférer sur cette question pour éviter que des traitements différents ne soient appliqués dans chaque institution, comme c'est le cas pour l'instant. Il précise qu'il n'y a cependant aucune raison d'invoquer la neutralité dans la sphère privée. Belgique, encore et toujours, dans le cadre des Journées nationales de la prison, la régionale bruxelloise du CAL, Bruxelles Laïque, organise le vendredi 28 novembre une table ronde consacrée à l'intervention sociale et culturelle en prison, qui rassemblera plusieurs acteurs ayant mené ce type de projet en milieu carcéral. La table ronde aura lieu de 14 à 18 heures dans les locaux de Bruxelles Laïque, situés au 18 et 20 avenue de Stalingrad à 1000 Bruxelles. Il sera suivi d'une projection de Sur les toits, un film de Nicolas Drolk, consacré aux révoltes dans les prisons de tous les Nancy en France en 1971. Un débat avec la salle est prévu après la projection. Pour plus d'informations, un numéro de téléphone, le 02 289 69 00 ou une adresse email, à savoir bruxelles.laïque@laïcité.be. Voilà, c'est ici que se referme cette émission. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez Pilar Arcas aux commandes. Elle vous parlera des droits LGBT, lesbiennes, gays, bi et transgenres. D'ici là, bon week-end à toutes et à tous.